Je suis en présence des conservateurs de l'exposition Momie égyptienne, passé, retrouvé, mystère dévoilé, qui est présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. La co-commissaire égyptologue du British Museum, Marie Van Den Bush, ainsi que le conservateur bio-archéologue Daniel Antoine, aussi du British Museum. Bienvenue à Montréal.
Merci. Merci beaucoup.
Merci, merci.
Alors, les sarcophages sont présentés à l'horizontale, en vitrine, mais semblent avoir été conçus pour être debout, parce que la base n'est jamais ornementée. Pourquoi ce changement de position?
Alors, c'est une question assez intéressante, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la position des cercueils. Dans les tombes, ils étaient placés à l'horizontale. Ça, c'est sûr. Il y a peut-être, à certains moments durant des rituels, où ils étaient placés verticalement, mais c'est quand même des moments assez précis. Nous, on a décidé de les placer à l'horizontale aussi pour des questions de conservation. On a une bien meilleure préservation des cercueils lorsqu'ils sont placés à l'horizontale. Et donc, pour nous, c'est le côté primordial, le côté qui prime, en fait. C'est vraiment la préservation des objets et des momies qu'il y a dans cette exposition.
Il y a une dichotomie, à mon avis, entre les connaissances scientifiques de l'époque, entre autres au niveau de l'anatomie, et les croyances religieuses. C'est-à-dire qu'on croyait que l'âme des défunts voyageait. Il y a un côté un peu ésotérique qui n'est pas tout à fait de la science. Alors,
au niveau de la science de l'embaumement, qui est vraiment une science qui a été développée par les anciens Égyptiens, ça va vraiment avec les croyances que les Égyptiens avaient à l'époque. Ils ont embaumé leurs morts, ils ont essayé de préserver leur corps pour l'éternité, et c'est vraiment pour cette raison que toute la science de l'embaumement a été développée. Donc je pense que ça va vraiment avec toute l'idée de résurrection dans l'au-delà, et tout ça forme vraiment une unité qui fonctionne finalement assez bien.
Et en fin de compte, on connaît très peu de choses sur l'embaumement. C'est une raison pourquoi on fait cette recherche. La plupart des connaissances sont basées sur des très petites données et des textes assez récents comme Hérodote. Et plus on travaille sur nos momies, plus on commence à avoir une idée qu'ils avaient une connaissance de l'anatomie incroyable. Par exemple, quand ils ont essayé d'enlever le cerveau à travers le nez, il y a des os très délicats de chaque côté du nez, et ils ne sont jamais endommagés. Et le trou qu'ils font dans la base du crâne à travers le nez est très très petit. Ils devaient opérer très rapidement, aussi pour enlever les organes avec une incision sur le côté gauche. Vraiment, une connaissance très pointue pour laisser le cœur aussi en place qu'ils voulaient, parce que le cœur était le centre de la connaissance, de l'âme. Donc, vraiment, et aussi, on commence à apprécier qu'il y a énormément de variations. Chaque momie, en fin de compte, ils ont utilisé des techniques et des méthodes différentes. Par exemple, ce qui se passe au crâne après avoir enlevé le cerveau, est-ce qu'ils rajoutent de la résine à l'intérieur, des textiles, ou laissent vide, ou des fois, est-ce qu'ils passent par l'arrière du cou à la place de passer à travers le nez?
Il y a un des bijoux qui porte une pierre semi-précieuse importée d'Afghanistan. Est-ce qu'il y avait un commerce régulier entre l'Égypte et ces pays lointains?
Je pense qu'il faut vraiment considérer l'Égypte comme un pays vraiment au milieu d'une zone d'échange qui était quand même très très fertile. Il y avait beaucoup beaucoup d'échanges commerciaux, non seulement avec les pays limitrophes, mais aussi avec des pays plus lointains. Et par exemple, le lapis lazuli provient généralement d'Afghanistan. Et on sait que pendant toute une partie de l'histoire égyptienne, des échanges étaient vraiment, vraiment très fructueux entre tous ces pays. Donc c'est quelque chose qui est très courant et qui n'est pas forcément toujours discuté tellement dans ce type d'exposition. Mais finalement, beaucoup d'objets sont faits avec des matériaux qui sont emportés, notamment le bois de certains des cercueils qui sont dans l'exposition ne sont pas des bois locaux, mais sont aussi des bois qui proviennent de Moyen-Orient.
Et on peut voir, entre autres, un jouet d'enfant qui est un petit cheval à roulettes. Est-ce qu'il existait aussi des gros jouets où l'enfant pouvait monter le cheval?
Alors, ce petit cheval est vraiment assez fabuleux. À mon avis, c'est vraiment quelque chose, on peut tous s'associer assez facilement.
Ainsi que la tunique, hein.
Oui, absolument. J'aime aussi beaucoup la petite souris. Il faut regarder la petite souris. Oui, elle est à côté du cheval. Ne loupez pas la souris. Mais en ce qui concerne des jouets plus de taille plus grande, j'en connais pas. Il n'y en a pas à ma connaissance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui n'ont pas été préservés. C'est toujours très très difficile à dire. Et c'est aussi toujours difficile de quand on a un objet qui vient d'un certain contexte, d'être sûr, savoir si c'est un jouet ou si c'est un objet votif ou si c'est un objet religieux. Et on a souvent tendance à donner une portée plus religieuse à quelque chose qu'on n'aurait pas tendance à comprendre. Avec le cheval, je pense que c'est pas le cas. On voit vraiment que c'est un jouet. Mais dans d'autres cas, on attribue peut-être une portée religieuse à quelque chose qui était simplement juste un amusement.
Et il y a le livre des respirations de Tazenus, quelques mots sur la signification.
Alors ça, c'est un texte qui est beaucoup plus tardif que les textes funéraires dont on a plus l'habitude, comme le livre des morts, qui est vraiment un livre qui permet aux défunts de poursuivre son chemin dans l'au-delà. Le livre des respirations est vraiment un texte qui a été développé et qui est surtout connu pendant l'époque romaine et qui a été développé pour vraiment permettre aux défunts de retrouver sa respiration et donc vraiment de bénéficier et de continuer à revivre et à renaître dans l'au-delà.
Vous avez des animaux dans la collection du British Museum. Alors pourquoi on n'en voit pas dans cette exposition? Parce que peut-être qu'une des 6 momies avait un chat chez lui et vous auriez pu l'inclure dans l'expo.
Donc on a 300 momies animales à peu près, mais on voulait vraiment que cette exposition se base sur 6 individus. Et donc toutes les idées générées à travers l'expo, les objets qu'on utilise, c'est pour explorer les thèmes qui sont basés sur nos découvertes de ces 6 individus. Pour nous, c'était très important que le public arrête de penser que ce sont des momies, mais ce sont des personnes qui ont été momifiées. Donc avec les jouets de l'enfant, par exemple, on explore l'idée de l'enfance, mais aussi on va évoquer l'enfance et peut-être créer une émotion, une réaction émotionnelle, parce qu'on veut vraiment que la personne est identifiée comme quelqu'un qui a vécu, mais qui a vécu il y a 3000 ans. C'est vraiment un privilège de pouvoir voir le visage de quelqu'un qui a vécu il y a tant de temps. Mais aussi, on voulait aussi explorer des idées que ils avaient les mêmes problèmes que nous aujourd'hui. Donc, par exemple, les maladies qu'on a découvertes sur eux, les maladies cardiovasculaires, qui sont aujourd'hui numéro un de la cause de la mort dans le monde. Ce sont des maladies qu'on trouve dans nos momies parce qu'on a pu, avec les tomogrammes très très pointus, créer des images de leurs artères et voir qu'il y a des dépôts qui ont des dépôts de cholestérol qui ont durci. Donc, c'était au risque d'AVC et de crise cardiaque, mais aussi on commence à découvrir qu'ils ont énorme problème dentaire. Tous les adultes dans l'exposition ont au moins un problème dentaire. Et à travers ces liens, j'espère que les gens vont s'identifier et connaître et peut-être avoir cette connexion à travers le temps que les 6 momies, en fin de compte, ils avaient les mêmes problèmes que nous aujourd'hui, mais aussi les mêmes joies, j'espère.
Et forcément, si Tammout avait eu un chat embaumé, on aurait essayé de faire en sorte que le chat soit présenté à côté d'elle dans l'exposition.
Alors, vous nous parlez un peu de la genèse, un peu de cette exposition-là. Vous avez voulu faire une sélection de momies. Peut-être nous parler de l'histoire de cette exposition-là, puis votre contribution, les détails, hein?
Alors, l'histoire de l'exposition à l'origine était basée à Londres. On avait 8 momies et de ces 8 momies, 2 pouvaient voyager. Donc on a fait de nouvelles analyses pour créer 6 momies qui puissent voyager, un mélange d'hommes, femmes et enfants pour qu'on puisse explorer différents thèmes et les présenter au public. Mais en fin de compte, on est vraiment guidé par ce que les tomogrammes nous ont révélé et on a essayé d'utiliser vraiment la science dernière cru avec une machine très très pointue pour faire le tomogramme et aussi utiliser un logiciel très sophistiqué pour pouvoir virtuellement enlever les bandelettes pour qu'on puisse révéler ces momies pour la première fois sans les avoir débandelettées physiquement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on vraiment...
Ce qui est refusé d'ailleurs par les musées. Hein.
Absolument, et on a la chance que nos prédécesseurs au British Museum n'ont jamais débandeletté nos momies. Mais vraiment, on vit dans une période magnifique où la science nous permet de voir ça, mais aussi avec les imprimeurs 3D, la momie de Tammut, la deuxième momie dans l'exposition, a ses amulettes magnifiques sur son corps, fait en métaux, sûrement en métaux précieux, mais on ne peut pas le dire à travers le tomogramme. Et on les a toutes imprimées. Et pouvoir tenir une de ces amulettes dans mes mains, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, en sachant qu'elle est exactement là où l'embaumeur l'a remplacée il y a 3000 ans, mais aussi pouvoir tenir une réplique complètement exacte dans mes mains.
Dans tout ce projet, on a travaillé avec une grande équipe. De mon côté, moi je suis égyptologue, donc j'ai regardé toutes ces données avec un point de vue égyptologique, tandis que mon collègue Daniel est bio-archéologue, et je vais lui laisser dire ce qu'il a fait.
Vous avez vraiment exposé les avancées technologiques dans l'étude des momies là, de façon extraordinaire.
Et aussi j'ai étudié à quel âge ils sont morts, les maladies dont ils ont souffert. Et aussi, avec Marie, on a vraiment fait une étude de pointe, les techniques utilisées par l'embaumeur pour préserver le corps. Par exemple, est-ce qu'ils ont inséré du packing dans la gorge? Comme ça, quand le corps sèche, il garde sa forme. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les organes internes après les avoir enlevés? Est-ce qu'ils les sèchent séparément? Mais dans certains cas, ils les ont replacés à l'intérieur de la momie. Dans d'autres, ils les ont placés sur les jambes de la momie. Donc, vraiment, ma contribution, c'est au point de vue anatomie, biologie, essayer de comprendre ces individus et essayer d'avoir peut-être un soupçon d'idée sur ce que leur vie aurait pu être.
Oui, c'est très émouvant. Il y a des moments d'émotion dans l'exposition, tout à fait, oui.
Et en fait, à partir de ces données, à partir de toutes ces histoires que finalement les momies ont essayé de nous transmettre, on a essayé de générer toute une série de thèmes. Et c'est à partir de ces thèmes qu'on a sélectionné certains des objets qu'il y avait dans la collection du British Museum. Et donc, le cheval et les autres objets que vous pouvez voir dans l'exposition sont vraiment générés à partir des données que nous ont fournies les momies.
Et d'ailleurs, oui, c'est tout un projet. Donc, vous êtes de longue date impliqué dans des projets d'exposition au British Museum, hein?
Oui, et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que de regarder les données, c'est des centaines d'heures de travail. Et finalement, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette exposition pour la présenter ici à Montréal.
Et on en bénéficie aujourd'hui.
Alors, il y a la danse qui est représentée par la statuette de Bess, ainsi qu'une clochette. Les deux ont des traits négroïdes. Est-ce que c'était des personnes de race noire qui étaient attitrées à la danse? Ou quel était le rôle des personnes noires en Égypte à ce moment-là?
Alors, le dieu Bess, qui est un dieu protecteur des enfants de la maisonnée, est un dieu assez caractéristique parce qu'il est représenté généralement de face. Il est généralement pas représenté comme un être à la peau noire, en revanche. Mais il a généralement la langue qui sort de sa bouche et il est représenté en faisant des gestes assez caractéristiques. Et c'est généralement plutôt pour repousser tous les esprits maléfiques qui pouvaient potentiellement interférer sur la vie d'une femme enceinte, sur un enfant qui vient de naître. Et c'est vraiment l'idée d'essayer de repousser, et l'idée de la clochette, c'est la même chose, hein, d'essayer de repousser tous ces esprits qui pourraient mettre en danger la vie de la maison.
Les momies étaient utilisées, chose étonnante, pour faire de l'engrais au 19e siècle, semble-t-il, en Angleterre. Pour quelles raisons? Et il n'y avait pas de loi pour protéger ces corps de défunts?
En fin de compte, la loi a vraiment changé depuis ce temps-là et une partie de ma responsabilité au British Museum, c'est d'être sûr que quand nous avons des momies et des squelettes en exposition, que nous faisons ça avec respect, dignité et avec grand soin. Et on a toute une politique au British Museum pour être sûr que tous nos restes humains sont vraiment protégés et présentés d'une manière respectueuse qui permet au public d'apprendre certaines choses, des choses que les objets ne peuvent pas leur apprendre, par exemple à quel âge les personnes meurent, quelles maladies ils ont souffert, mais aussi au point de vue momification, vraiment il faut qu'on regarde les corps eux-mêmes.
J'aurais une petite question supplémentaire à vous poser. Dans la dernière salle, on a l'époque des portraits de momies. Alors, je suis très curieuse. Alors, à ce moment-là, il y avait énormément d'influence entre les grandes cités antiques. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette période énigmatique, sur les portraits de momies?
Oui. Alors, en fait, tous ces portraits ont été produits pendant l'époque romaine. Donc, c'est l'époque durant laquelle les Romains régnaient sur l'Égypte. Et finalement, c'est vraiment une période. C'est aussi la période qui a suivi l'époque ptolémaïque, où cette fois c'était les Grecs qui régnaient sur l'Égypte. Et en fait, c'est vraiment une période de forte influence qu'on voit tout particulièrement dans l'art funéraire. On a une sorte de continuité avec cette volonté de continuer l'embaumement et cet espoir de renaître dans l'au-delà, etc. Mais il y a vraiment un changement au niveau de l'art funéraire. Finalement, on a une sorte d'intégration de côté un peu plus naturaliste du portrait qui est apporté et qui est inséré sur ces momies.
Ah, d'accord.
Et en fait, on voit qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'échanges. On parlait d'échanges précédemment commerciaux. Et c'est vraiment le cas pour ces portraits. On a aussi beaucoup de bois qui viennent de différentes parties de la Méditerranée, tout comme certaines des peintures. Donc il y a vraiment un échange et une tradition qui fluctue et qui s'ouvre aussi sur d'autres pratiques.
Et est-ce que ça annonçait un petit peu la fin un peu des pratiques funéraires égyptiennes?
Donc les rituels d'embaumement, etc., vont justement s'achever pendant la période romaine, effectivement, oui.
Alors, pour l'exposition des momies égyptiennes au Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui va se poursuivre jusqu'au 2 février 2020, je m'entretenais avec la co-commissaire égyptologue Marie van der Busch, ainsi que le conservateur bio-archéologue Daniel Antoine du British Museum, tous les deux, qui ont dévoilé les mystères d'un passé retrouvé. Alors, je tiens à remercier les deux commissaires, commissaire égyptologue du British Museum, Marie van der Busch, et le conservateur bio-archéologue Daniel Antoine du British Museum. Et bon séjour à Montréal.
Merci beaucoup et bonne visite.
Merci beaucoup.